et bienvenue. Moi c'est Licia et je vous parle de littérature et de mythologie dans mon émission Le Monde des Mots et des Mythes. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une saga que j'affectionne tout particulièrement. Et non, malheureusement, ce n'est pas Harry Potter, même si j'ai beaucoup d'amour pour cette saga avec laquelle j'ai grandi. Et pour le mythe, je vous parlerai du héros célèbre pour avoir coupé la tête de Méduse. Mais avant tout, on commence avec le petit point info. Pour commencer, quelques informations rapides. Disney a décidé de suspendre le développement du live-action de Réponse, suite à l'échec du live-action de Blanche-Neige. Pour le moment, nous ne sommes pas sûrs que ce soit définitif. On peut penser que Disney attend de voir ce que vont donner ses prochains live-actions, dont Lilo et Stitch qui vient de sortir, et Vaiana qui sortira en juillet 2026. Autre que la sortie de live-action, mais plutôt la suite de films que l'on peut considérer, enfin, que je considère plutôt comme chef-d'œuvre. On a à l'affiche la suite de FBI, ou appelée Fausse Blonde Infiltrée. On aura la suite également de Coco, de Cruella, Le Diable s'habille en Prada, Rio, Wonka, Maléfique, ou encore La Soupe aux Choux. Et oui, après 45 ans, ce film aura enfin le droit à une suite au cinéma. Puis, lors de ma dernière émission, je vous ai parlé du nouveau Hunger Games de Suzanne Collins. Aujourd'hui, je vous livre enfin la date de sortie du film. Il sortira le 20 novembre 2026. J'ai également et enfin les dates de sortie de la saison de mercredi. La première partie sortira le 6 août et la seconde le 3 septembre.
Salutations, très chers marginaux. L'Académie Nevermore est ravie de rouvrir ses portes. Je suis votre nouveau directeur, Barry Dort. L'année dernière, cette école, ce sanctuaire, a été l'objet d'une attaque à cause de ma prédécesseuse, Larissa Wills. Son dévouement abject envers les normies a mené à une véritable catastrophe, mais je me réjouis de la moindre opportunité de réparer ses erreurs. Cette année, j'ai l'intention de rendre à Nevermore ses lettres de noblesse en ouvrant notre belle école à une toute nouvelle fournée de jeunes marginaux enthousiastes. Comme ce première année, qui apprend encore à maîtriser son don de marginal. Quelle que soit votre marginalité, vous vous sentirez chez vous à Nevermore.
Parce qu'ici, nous célébrons ce qui nous rend uniques.
Et nous révélons notre vraie personnalité.
Même si elle est aussi agréable que des ongles sur un tableau noir.
Qu'est-ce que vous attendez? Foncez! Saisissez votre chance de rejoindre le nouveau Nevermore! Parce qu'à Nevermore, chacun trouvera sa place.
Pour continuer, après le chef-d'œuvre et la réussite du film Le Comte de Monte Cristo, un producteur américain a décidé d'en faire une adaptation avec comme acteur pour Edmond Dantès, René Jean Page, connu pour son rôle du duc de Hastings dans les Bridgerton. En parlant de cette série très rapidement, la saison 5 et 6 sont déjà en développement chez Netflix. Pour finir sur la cinématographie, la saison 2 de la série Percy Jackson que Disney développe en ce moment, sort en décembre cette année. Et c'est du mythe qui a inspiré, entre guillemets, cette histoire dont je vais vous parler à la fin de cette émission. Du côté des sorties livresques, ce 5 juin est sorti le tome 10 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, appelée Cœur de citron. Pour la petite histoire, c'est une des premières sagas que je lisais plus jeune, qui m'a lancée dans la lecture. Aujourd'hui, je la lis plus car je la trouve plus à mon goût, mais ça reste pour autant une très bonne saga que je vous conseille. Et il y a un petit supplément recette pour les amateurs de cuisine. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma saga préférée du moment. C'est une saga de l'autrice américaine Adaline Grace. Elle est pour le moment composée de 4 livres, dont son dernier qui n'est pas encore arrivé en France. Les tomes ont tous un nom bien différent, Belladonna, Foxglove, Wisteria et Holly. Peut-être l'aurez-vous remarqué, mais chacun des titres, bien qu'ils soient différents, ont en fait un truc en commun. En effet, ils portent tous le nom d'une fleur ou d'une plante. La belladone, la digitale pour Foxglove, la glycine pour Wisteria et le hou pour Holly. Le rapport entre toutes ces plantes, c'est qu'elles sont toutes toxiques, que ce soit pour l'humain ou pour l'animal, et chacune d'entre elles ont un rapport dans le livre. Voilà l'histoire de cette saga. Dans le tome 1, on fait la rencontre de notre personnage principal, Signa Faro. Elle est née dans une famille de riches, mais elle perd ses parents très rapidement. Elle se retrouve donc avec un grand héritage et devient aussi la convoitise de nombreux tueurs en série. Elle passe d'adoption en adoption et les personnes qui l'adoptent étant beaucoup plus intéressées par sa richesse que par elle. Ils finissent tous par ailleurs par trouver une fin prématurée. Arrivé à 19 ans, il reste à Signa une dernière famille qui veut bien l'accueillir. Les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois éclatant et lugubre appelé l'épineuse. Le père de famille est en deuil de sa femme et organise des fêtes décadentes, pendant que son fils essaye de sauver l'honneur et la réputation, et pendant que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. C'est alors que l'esprit de leur mère réapparaît, prétendant avoir été empoisonné. Signa réalise alors que la famille Hawthorne pourrait courir un grand danger. Afin de découvrir le meurtrier ainsi que tous les mystères qui entourent cette famille et ce manoir, elle décide alors de s'allier avec l'ange de la mort, cette ombre fascinante et dangereuse qui ne l'a jamais quitté. Bien qu'elle le haïsse pour avoir rendu sa vie pas facile, elle ne pourra pas s'empêcher de se rendre compte que leur connexion grandissante peut être plus puissante mais aussi plus irrésistible qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Avant de vous lire une petite partie, je dois vous tenir au courant de ceci. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien l'autrice et l'éditeur de ce livre. C'est un livre qui est pour un public averti. Il est conseillé à partir de 14-15 ans. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de scènes explicites, il faut quand même faire gaffe car il n'est pas adapté à tout âge. Maintenant, je vais donc vous lire le début du chapitre 1 de Belladonna. On dit que 5 baies de Belladone suffisent à tuer quelqu'un. Juste 5 baies sucrées, prélevées directement sur la plante. Ou, comme Signa le préférait, écrasées et plongées dans une tasse de thé. Ses sourcils luisaient de sueur, tandis qu'elle se penchait sur la tasse en cuivre fumante pour en inhaler les vapeurs. Il aurait certainement été plus facile de manger directement les baies, mais elle étudiait encore les effets que la belladone avait sur elle. Et la dernière chose dont elle avait besoin, c'était que sa tante Magda la retrouve évanouie dans le jardin, la langue d'un violet vif. Du moins, une fois de plus. Cela faisait des semaines que Signa n'avait pas vu le faucheur d'âmes. Seul un dernier soupir le faisait sortir de sa cachette, et il ne repartait jamais les mains vides. Du moins, c'était généralement l'ordre des choses. Mais Signa Faro ne pouvait pas mourir. La première fois que Signa se rappelait l'avoir vue, elle avait 5 ans. Elle était tombée dans les escaliers de la maison de sa grand-mère. Son cou s'était brisé et formait un angle étrange. Elle avait observé l'ange de la mort du coin de l'œil, depuis le sol froid. Elle comprenait vaguement que son jeune corps n'était pas censé supporter ce genre de chute, et se demandait s'il était venu la chercher. Pourtant, il n'avait rien dit, avait regardé ses os se remettre en place avec un grand bruit, et avait disparu quand elle s'était remise d'une chute qui aurait dû la tuer. Voilà, c'était le début donc du chapitre 1. Pourquoi du coup j'ai décidé de vous parler de ce livre aujourd'hui, notamment de cette saga complète. Donc il faut savoir que j'ai lu les deux premiers tomes, que le dernier tome donc, qui est arrivé en France en mars, j'en ai parlé lors de ma dernière émission. Je viens tout juste de le commencer, donc je ne peux pas encore vous donner un avis sur celui-ci. En tout cas, pour les deux premiers tomes, ça a été des livres qui m'ont beaucoup plu. Donc c'est de la romantaisie déjà pour commencer, donc un mélange de romance et de fantaisie. Deux genres déjà que j'adore, et donc quand on les mixe ensemble, ça fait un truc que je kiffe. Premièrement, donc il a une valeur sentimentale parce que c'est ma mère qui me l'a offert à Noël il y a de ça un an ou deux, je ne sais plus exactement lequel. Il était ni dans ma liste, je ne le connaissais pas du tout, mais il a une couverture, malheureusement à la radio vous ne pouvez pas savoir, mais il est magnifique. Il a très vite piqué ma curiosité et donc je l'ai dévoré en seulement quelques jours. Ce livre, c'est tout un autre univers, tout un autre monde qui a développé toute une autre partie de mon imaginaire qui est déjà très grand à la base. En fait, je saurais même pas comment vous expliquer exactement pourquoi je l'aime. J'ai pas assez de mots, j'en ai des fois trop. Je sais pas comment vous expliquer à quel point je chéris cette saga. Après, comme on dit, quand on aime vraiment quelque chose, on ne saurait dire pourquoi on l'aime. Donc, j'ai pas d'argument à vous donner, mis à part vous dire d'aller lire cette saga pour savoir, vous, qu'est-ce que vous allez en penser. On va donc passer à une petite pause musicale maintenant. On se retrouvera après cette musique qui vient avec l'été, qui arrive bientôt par ailleurs. Je vais vous présenter donc Au Soleil Mio de SF9.
Hey! talk about, I'm just living in yours.
Just baby, don't lie.
오늘도 너와 나는 말을 맞춰가며 나갔어. 도도하게 오늘도 난 누가
always 너는 나를 놔두게 해. 내 모든 것들은 너로 시작 매일매일 매일. I'm living in your core, in my side. You wanna know, also let me, yo, me, yo, me, yo.
Oh, 액정이여 아직 네 온기가 가득해.
액정이여.
Oh, this Maria 너만이 나를 뜨겁게 하네.
겁내지 마, 이 바람이 몰아쳐도 꽂히지 않네.
Oh, so let me, yo, 대기에로 넌 내 태양 가릴 수 없어. 숨이 턱턱 막혀와 피할 수 없어.
You let it.
Yeah, yeah, yeah. 어둠 속에 나를 구해줘. 이제 나의 손을 잡아줘. 뜨겁게 나를 안아줘.
언제든 날 비춰줘. Oh,
say me every day. Oh, so let me on 대기에도 넌 내 태양 가릴 수 없어. 숨이 턱턱 막혀와 피할 수 없어. So let me on 대기에도 넌 내 태양.
Voilà de retour après cette petite pause. Le mythe d'aujourd'hui est celui de Percy. Oui, il y a un petit rapport avec la série Percy Jackson. Premièrement, Percy, c'est également le diminutif de Percé. Ensuite, dans la série Percy Jackson, on peut y voir plusieurs références au mythe de Percé. Premièrement, Percy se fait aider par le fils d'Hermès, de la même manière que Hermès a aidé Percé. On peut y voir des références comme les chaussures ailées d'Hermès, comme Méduse, que Percy va tuer comme Percé a tué Méduse. Et pour finir, il y aurait également un lien de parenté qui les unirait, même si Percy Jackson, je tiens à le prévenir, ne fait pas partie du tout de la mythologie grecque. C'est une histoire purement inventée. À la base, c'est un livre. L'auteur s'est inspiré de son fils qui avait des problèmes de dyslexie pour pouvoir écrire ce livre. C'est de là, du coup, Percy et Percé seraient cousins. En effet, ils ont tous les deux des demi-dieux. Percé est le fils de Zeus, tandis que Percy est le fils de Poséidon, donc dieu de la mer, et Zeus, roi des dieux.
Il y a 12 dieux de l'Olympe. Les trois plus connus sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Certains enfants de ces dieux étaient mi-dieux, mi-humains.
Percy Jackson, il faut qu'on parle.
Madame Doz ? Attendez, qui m'a trouvé?
Nous t'attendions.
Qu'est-ce qui se passe?
Les dieux sont réels. Tu es mi-dieu, mi-humain.
Mon père est Poséidon.
Le dieu de la mer.
Ton sang est spécial.
L'éclair de Zeus est l'arme la plus puissante qui ait jamais été créée.
Il a été volé.
Et tout le monde croit que tu es le voleur de foudre.
Je ne l'ai pas volé.
Si l'éclair n'est pas restitué pour le solstice d'été, ce sera la guerre.
On va trouver l'éclair.
Il n'est plus en sécurité nulle part, ni sur terre, ni au ciel. Prends ceci pour te défendre. C'est une arme très puissante.
C'est un stylo bille.
Ne l'utilise que quand tu es vraiment en danger.
C'est un stylo bille.
Ton stylo ! Wow !
Le temps est écoulé.
Mon chou, tu n'es pas le fils de Poséidon.
Jackson, le voleur de foudre.
Viens, plonge ton regard dans le mien.
Du coup, commençons l'histoire de Percé. Alors, sa mère, Danaé, était une jeune princesse qui vivait dans la ville d'Argos. Le père de Danaé, qui s'appelle Acrisios, la tenait enfermée car un oracle l'avait averti que si Danaé avait un enfant, celui-ci le tuerait. Comme à chaque fois, finalement. ce qui n'empêchera pas Zeus d'enfanter Danaé, et de cette union va naître Persée. Après la naissance dite secrète de Persée, qui restera pas si longtemps secrète puisque ses cris vont révéler à son grand-père sa naissance. Il sera donc enfermé avec sa mère dans un coffre, jeté dans les flots qui vont les porter jusqu'à l'île de Sériphos. Tous les deux seront recueillis par un pêcheur nommé Dictys qui va élever Persée comme son fils. Un jour, un autre roi, qui s'appelle Polydecte, va donner le défi de tuer Méduse à Persée. Pour la petite histoire, Méduse, elle est assez tragique cette histoire, c'est une adoratrice, une disciple d'Athéna. Donc, faut savoir que toutes celles qui prient Athéna sont vouées à la chasteté. Chasteté, donc interdiction d'avoir de relations sexuelles. Cependant, elle était une très belle jeune femme, donc elle fut très vite convoitée par le dieu des océans, donc Poséidon, qui, après de nombreux refus de la part de la jeune femme, décida donc de s'y prendre autrement, sans le consentement de Méduse. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous avez compris. Méduse est donc tétanisée et elle va se réfugier dans le temple d'Athéna pour avoir son aide. Mais Athéna ne la crut pas et en voyant qu'elle n'avait pas respecté son vœu de chasteté, elle la transforme en ce sous quoi on la connaît, une gorgogne. Ses yeux pouvant pétrifier n'importe qui la regarderait droit dans les yeux. Un peu impulsive notre Athéna et surtout pas très à l'écoute. Revenons donc à notre très cher Persée. Avec l'aide d'Athéna et d'Hermès, Persée put se procurer un casque d'invisibilité d'Arès, les chaussures ailées d'Hermès, un sac pour émettre la tête de Méduse, ainsi que le bouclier d'Athéna. Il put ainsi entrer dans la cachette de Méduse, éviter son regard, et grâce au bouclier voir le reflet de Méduse, et put enfin lui trancher la tête. Il put récupérer la tête, s'en aller en volant rejoindre le roi qui était sur le point de marier sa mère. Il sortit la tête de Méduse, pétrifia le roi, puis offra la tête à Athéna, qui la mettra sur son bouclier afin de s'en servir contre ses adversaires. La prochaine réussite de Persée sera le sauvetage de la jeune fille Andromède. Mais la sauver de qui ? Voilà la petite histoire d'Andromède. La mère d'Andromède s'est vantée très longtemps que sa fille soit plus belle que les Néréides. Ce sont les nymphes des mers, donc qui sont comme des filles de Poséidon. Ceci donc mit Poséidon en colère forcément et envoya un monstre pour tout détruire pendant des jours et des jours. Certaines personnes sont donc allées consulter l'oracle, notamment la mère d'Andromède, et après consultation, ont compris qu'il fallait donner pour épouse Andromède au monstre afin de calmer les choses, ce que les habitants ainsi que sa mère fit sans scrupule. Heureusement, notre héros arrive à temps et sauve Andromède. Plus tard, elle deviendra sa femme et fonderont une famille ensemble. Vous pouvez penser que tout est beau, tout est rose, tout est fini. Cependant, il y a un détail qu'on a oublié. Un détail important. Le grand-père de Persée, qui avait lui aussi vu l'oracle. Ils sont pas très confiants les rois dans la mythologie grecque. Ils sont tous allés voir l'oracle, ils ont tous appris qu'ils allaient mourir. Enfin bref, il est allé voir l'oracle et il lui avait dit qu'il se ferait tuer par Persée lui-même. Sans étonnement, après avoir entendu tous les exploits de Persée, il a très vite fui son royaume, mais alors qu'il se pensait en sécurité, la prophétie revient le frapper de plein fouet dans le visage. Et c'est le cas de le dire. Car lors de jeux funèbres, en l'honneur d'un roi décédé, Persée lança son disque et bien sûr loupa sa cible. Le disque vient frapper de plein fouet le visage du vieillard et il mourut sur le coup. Voilà, tout ce que vous avez à savoir sur le mythe de Persée vient d'être dit. C'est à la fois très court mais très complexe. En réalité, il mélange plusieurs autres mythes à la fois, des mythes que je pourrais en parler dans une prochaine émission, donc je vous préférerais pas vous, entre guillemets, spoiler. Ce mythe est aussi par ailleurs connu sous différentes manières. Les auteurs l'écrivent de différentes façons. Moi, j'ai décidé de vous le raconter sous cette façon-là parce que c'est comme ça qu'on me l'a raconté à moi. Je me suis inspirée de certains livres, aussi de certains sites sur lesquels je suis allée, ainsi que du podcast de Mythologie grecque décomplexée sur Spotify. Je pense qu'on peut le trouver aussi ailleurs, mais moi je l'écoute sur Spotify personnellement. Voilà, nous arrivons enfin à la fin de cette émission. Je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que ce moment en ma présence vous a plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. C'était Alicia et je vous remercie de votre écoute.